Il y a des événements tragiques qui nous arrivent dans la vie et qui la font basculer. Ce qu'a vécu Carl Charest, mon invité, qui est un gars de communication aujourd'hui, vous le connaissez, il vient souvent à mon émission. Merci d'être là, Carl.
Ça me fait plaisir.
Et je disais aux auditeurs, écoute, ça fait des années qu'on se connaît. Mmh. Je ne connaissais pas cette histoire de ta vie qui est arrivée il y a plus de 15 ans et qui a fait en sorte que ça fait peu de temps que tu es capable d'en parler.
Mais en fait, j'ai toujours été un peu capable d'en parler, mais je me disais, à qui ça sert que j'en parle?
Ouais.
À qui ça sert que je l'extériorise? Et y a-tu une raison de le faire?
Alors, on rappelle, il y a donc...
Ça fait 16 ans et demi, là, donc
ouais, ça
17
faire 7
ans,
ans.
Mois de septembre.
Ouais. Tu as été poignardé en pleine rue.
Ouais.
C'était probablement, selon la police, une commande d'un gang de rue pour initier un jeune.
Ouais.
Raconte-nous un peu ce qui s'est passé.
En fait, pour ceux qui connaissent un peu Montréal, il y a le Centre canadien d'architecture, pas loin de l'ancien Forum, et il y a un tunnel qui mène à une station de métro sur la ligne Orange. Et je prenais jamais la ligne Orange, je prenais toujours l'autobus pour me rendre chez moi. Je restais ce qu'on appelle maintenant le Milex, et je prenais l'autobus. Puis pour un soir, une fois, j'ai décidé d'accompagner un collègue de travail sur l'Orange parce qu'on avait commencé une conversation. Puis au lieu de se séparer, ben on allait continuer la conversation dans le métro. Et j'allais marcher de la station Beaubien jusqu'à chez moi. Et l'ami s'en allait, il me racontait son histoire, s'en allait rejoindre sa sœur au Texas le lendemain, il y avait de l'argent sur
lui.
Aujourd'hui,
ouais.
On jasait. Il y avait beaucoup d'argent, il y avait une bonne somme sur lui dans ses poches. Il était allé sur l'heure du dîner faire changer de l'argent pour être capable d'avoir de l'argent américain. Fait qu'on marchait. On croise trois hommes qui nous demandent si on fume. Je fume pas dans la vie, j'ai bien des défauts, j'ai pas celle-là. Et je dis, ben non, je fume pas, je suis désolé. Et au moment où j'ai dit en anglais que je ne fumais pas, j'ai ressenti une espèce d'instinct de « on est dans le trouble, on est dans le schnout. Ça va pas bien aller, ça va pas bien se finir. »
T'as comme pas trusté ces gars-là.
J'ai pas trusté ces gars-là. Mon instinct m'a dit « il y a quelque chose qui fonctionne pas. » Fait que je dis aux collègues de travail « écoute, je le sens pas. Ah non, inquiète-toi pas. » OK, pas de problème. Commence à marcher, on avance. Et je me retourne, ils nous suivent. On avance encore, je me retourne de nouveau, ils ne nous suivent plus, ils courent. Je dis aux collègues, on part. On se met à courir, ils courent plus vite que nous, ils nous rattrapent. L'homme qui... Donc, il y a deux hommes. Un homme qui reste un petit peu en arrière pour faire le guet, voir s'il y a des gens qui arrivent. Un homme qui s'occupe de mon collègue, donc qui fait juste le retenir pour qu'il bouge. Et un homme qui... se met à m'agresser, moi. Donc, c'est de là que la théorie des policiers de dire que c'était une commande d'initiation. J'étais plus grand et plus gros que le collègue. Donc, je suis une meilleure cible.
Pour prouver que tu es capable.
Pour prouver que tu es capable. Mmh. Parce qu'il y a une autre collègue de travail qui était passée cinq minutes avant, qu'ils avaient croisé. Et... à qui il n'était rien arrivé. Donc, c'était vraiment... J'étais une cible. Puis, j'avais rien, là. J'avais... on s'entend, il y a 17 ans, j'avais quoi? J'avais 24, 25 ans. J'avais à peine d'argent dans mes poches. J'avais mes clés. Puis
mais t'étais un gars costaud, toi.
Mais ouais. J'étais un gars bien pris. J'étais un gars, tu sais, j'ai une tête de plus que Stéphane Roy.
Puis là, le gars, il a sorti son couteau.
Et ce que je savais pas. Donc, le gars... Moi, je pense que le gars, il est derrière moi. Il a sa main et il me dit, donne-moi tes trucs. Moi, j'ai pas conscience, je suis sur l'adrénaline,
ouais.
Je suis à fond, je sais que j'ai une tête et demie de plus que lui, tu m'auras pas. Donc, j'essaye de me débattre, je hurle et j'essaye de m'assurer qu'il me lâche, me servir de mes vieilles techniques de karaté quand j'avais 7-8 ans qui sont pas sorties du tout, ça a pas fonctionné mon affaire. Et à un moment donné, je regarde ma chemise et ma chemise est plus bleue, elle est comme Bourgogne.
Ça pissait le sang.
Ça pissait le sang. Et là, je me suis littéralement effondré. J'ai sorti mon portefeuille de mon... J'avais un manteau de cuirette. J'ai sorti mon portefeuille, j'ai donné mes clés. En fait, il a pris mes clés dans mes poches et ils sont partis. J'ai hurlé, donnez-moi mes clés. Il a lancé les clés. Le collègue était chercher les clés. Je sais pas pourquoi mes clés, c'était plus important que le portefeuille.
Ou que ta gorge qui venait d'être...
Ma gorge qui venait d'être...
Tranchée, quasiment.
D'être tranchée.
Oh mon Dieu,
Il y a deux personnes, et ça, je leur en voudrais, parce qu'aux collègues, moi, pour moi, tu sais, moi, j'ai eu énormément d'amour après ça, de gens qui m'ont conforté, tout ça, parce que j'avais des marques, parce que j'avais des signes. Le collègue n'a jamais rien eu autre, c'est très proche. Et je m'en suis toujours voulu d'avoir pris un peu le spotlight, parce qu'on était deux victimes là-dedans.
Oui, mais bon, C'est sûr, là, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est toi qui as été physiquement atteint, je qui a failli mourir.
Je comprends, mais c'est lui qui a tout
vu ça. Il a vécu le choc post-traumatique,
il l'a vécu, ouais. Et il n'a pas eu le suivi étatique.
Mais l'as-tu eu, toi?
Moi, je l'ai eu. Ça a été hyper compliqué à l'avoir. Ça a pris parce que la façon dont le système fonctionne, ben, il fonctionne comme dans tout. Fait que tout est long.
Mais t'aurais pu mourir.
Tout est compliqué. Ah oui, c'est sûr. Je suis passé, selon les médecins, puis il y a tellement d'histoires dans mon histoire, selon les médecins, je suis passé à deux cheveux de mourir. Parce que un des coups est arrivé près de la carotide. Donc, quelques millimètres à côté, et j'y passais. Et le médecin, à cette époque-là, je fréquentais une fille de Québec qui ne parlait pas un mot anglais. Et le médecin qui m'a opéré est anglophone. C'était un médecin du General, du Jewish, qui était venu... Jewish, qui était venu remplacer au General, parce que j'ai été au General, les ambulanciers m'avaient amené au General. Et il ne parlait pas un mot français. Donc, quand il a expliqué post-opération qu'est-ce que j'avais, qu'est-ce qu'il m'avait fait, il l'expliquait en anglais. La fille, elle n'a rien compris de ce qu'il lui a dit. Et dans mon dossier est vide. Il n'a pas rempli la paperasse. Donc, j'ai été opéré. Je sais que j'ai été opéré parce que je sais que j'ai été sur la table d'opération. Mais je ne sais pas ce qu'ils m'ont fait dans l'opération. Fait que ça a pris peut-être... Après l'agression, ça a pris 5-10 minutes avant que les ambulanciers arrivent. J'ai passé 3 jours à l'hôpital. Ouais. Et tu as 24-25 ans. C'est ton premier vrai boulot. Tu veux pas perdre ton boulot. Tu veux pas perdre l'importance que tu as. Tu es insécure. Fait que j'ai pris 3 semaines de congé et je suis revenu au travail, ce que j'aurais jamais dû faire. Ouais. Parce que j'avais besoin de beaucoup plus que ça.
Tout ça a complètement chambardé ta vie, hein, cette affaire-là.
Ben, en fait, c'est comme si j'étais né une deuxième fois. Je suis pas mort cette journée-là parce que je suis pas capable de fonctionner avec ce sentiment de négativité-là. Mais j'ai fait... Oh boy, OK, j'ai pas gagné à l'auto, j'ai jamais gagné à l'auto, puis ça m'arrivera probablement jamais, même si j'en achète une fois de temps en temps, mais j'ai foutrement gagné à la loto de la vie. Parce que ce millimètre-là est d'une importance extraordinaire par rapport au reste de ma vie. Tu sais, oui, j'ai été au mauvais endroit, au mauvais moment, mais ce couteau-là a été franchement mieux placé. T'sais, c'est rien un millimètre, là. C'est absolument rien. C'est rien de se dire que juste si son bras avait, je sais pas moi, targué ou un coup de vent ou peu importe, l'émotion fait que il va juste un peu à côté. Ben, je suis plus là pour te parler aujourd'hui. Je suis pas le père de mon fils Yuri. Je suis pas le frère de mon frère. Je suis pas l'enfant de mes parents. J'arrête d'exister ce 25 septembre 2002.
Tu vas nous dire après la pause, Carl, ce que ça a changé de ta vie véritablement. J'ai un de mes proches, moi, qui s'est fait trancher la gorge et qui, après que ça lui soit arrivé, m'a dit que c'était officiellement cette journée-là où il s'est fait poignarder. Et puis, ils lui ont tranché 80% de la carotide. Là, après, il a perdu beaucoup de sang. Mais il n'est pas mort tout de suite. Il est mort 3 ans plus tard, d'autres choses. Mais il m'a dit, cette journée-là, c'est le jour de ma mort. Puis après, il y a une autre vie qui est repartie. Et puis toi, c'est un peu ça qui est arrivé.
Okay, cool.
On revient avec Carl Charret dans 2 minutes. Carl Charret, qui est aujourd'hui un professionnel des communications, qui a une belle carrière dans ce domaine-là, n'était pas disposé à ça à l'époque. C'était avant, dans sa vie d'avant, avant cette agression, Carl. On dit ça comme ça parce que c'est vrai que la vie bascule après un événement tragique. Parfois, c'est une maladie, mais parfois, dans le cas d'agression, il y a définitivement un choc post-traumatique. Toi, tu l'as vécu, ça, après avoir été poignardé en pleine rue, probablement par des gangs de rue. Un crime non résolu, d'ailleurs.
Ouais.
La police, pas capable de dire qui c'est, là, ni de le trouver.
Ben, en fait, c'est que moi, j'avais une idée de qui était, puis j'avais une bonne image de qui étaient mes agresseurs, et le collègue aussi. Mais il y a 2 témoins qui sont venus contredire ce que nous, on disait. Ce qui m'a toujours choqué dans mon histoire, c'est que les policiers m'ont dit que les 2 témoins, c'était des professionnels. Donc, un notaire et un avocat qui ont probablement pas voulu témoigner ou être pris dans un témoignage contre ce qui devait prévaloir ou ce qui devait être évident que c'était des gens qui faisaient partie des gangs de rue.
Pour éviter le trouble.
pour éviter le trouble. Les policiers m'ont raconté plein d'histoires par rapport aux gens que je présumais ou que je pensais, dont le frère d'un des trois agresseurs qui se serait promené avec un AK-47 sur Sainte-Catherine, dans l'Ouest, puis tirait dans les airs en plein jour.
Oh mon Dieu, des
histoires
malades,
qu'on
n'a
jamais entendues. Ouais. Je pense qu'ils ont été arrêtés sur un autre dossier. Mon passé de journaliste a fait que j'avais un peu gardé l'œil là-dessus. Et il y avait eu une descente sur un autre dossier à peu près dans le même secteur. Et je pense que deux des trois ou les trois avaient été arrêtés dans ce cas-là. Mais ma cause à moi, ma situation à moi, a jamais été rendue en justice. Puis, à un moment
jamais
donné,
été témoigné en cours.
Et à un moment donné, j'étais content. Parce que d'aller témoigner en cours contre tes agresseurs doit être un sentiment, surtout lorsqu'on voit avec la justice aujourd'hui, ça doit te donner un sentiment complètement frustrant et terrifiant.
Ouais. Après, Carl, tu disais personne n'était capable de dealer avec moi. J'étais comme, j'étais plus supportable. Alors, qu'est-ce que ça a eu comme impact sur toi?
Ben, j'ai perdu beaucoup de gens. J'ai des gens qui...
Parce que l'agression t'avait rendu agressif à ton tour? T'étais devenu comment?
Pas agressif, mais j'étais dark, j'étais noir, je travaillais plus de jour, j'allais travailler la nuit parce que je dormais plus la nuit.
C'était la peur qui te
rongeait? La peur me rongeait, puis une espèce de... Je me fous un peu de tout. J'ai le goût de faire ce que je veux au moment que je le veux, puis j'ai pas le goût d'avoir de cadre, j'ai pas le goût d'avoir quelqu'un qui me dit quoi faire, j'ai pas le goût de qu'on me dise comment respirer ou où respirer.
Pourquoi? Parce que t'étais quasiment mort, fait que là, c'est toi qui décides.
C'est moi qui décide pour le reste de ta vie. Pour le reste de ma vie. Donc, j'avais une amoureuse à ce moment-là, puis encore aujourd'hui, je m'en excuse, mais j'ai vraiment été pas correct avec elle.
Tu l'as quittée, d'ailleurs.
Je l'ai quittée, d'ailleurs.
T'as quitté beaucoup de choses après. T'as comme fait un gros ménage.
J'ai changé ma vie pour le mieux ou pas, mais j'ai pris des décisions de me dire, je ferai plus de trucs... Puis j'en ai refait par après parce qu'on on s'écoute jamais vraiment, mais je ferai plus de trucs que j'ai pas envie de faire.
Ouais.
Je ferai plus de trucs qui, puis à 42 ans, je vais avoir 42, mais dans quarantaine, c'est encore plus fort ce sentiment-là. Je me dis, regarde, j'en ai juste une à vivre, j'étais chanceux, j'en ai deux. Ben, la deuxième, j'ai pas envie de faire des trucs qui me tentent pas comme j'ai fait à la première. Parce que longtemps, j'ai voulu être derrière un micro comme je suis aujourd'hui. Longtemps, j'ai fait des sacrifices. J'étais bègue quand j'étais ado. J'ai travaillé fort pour faire partie de la gang de l'industrie. Puis, à un moment donné, je me laissais abattre par le fait de ça fonctionne pas. Puis, après ça, j'ai fait, tu sais quoi? Je vais prendre des risques. Et j'ai fait des trucs. Puis, lorsqu'on regarde mon profil de boulot, de trucs, ou quand je parle à des gens qui me connaissent pas, ils sont comme, ah, tu fais de la politique en France, tu fais plein de trucs. Oui, parce que j'ai juste une vie à vivre.
Éric, ça te dit quelque chose? Éric L. Je sais pas s'il veut que je dise son nom de famille, mais il vient de m'écrire. Il dit, je t'écoute, Carl, raconter ton histoire. J'en shake exactement comme il y a 15 ans quand c'est arrivé. Je travaillais avec toi dans le département d'à côté. Je passais le matin et le soir par le même chemin. J'ai jamais oublié cette histoire. Je suis beaucoup plus prudent depuis. Éric Lacaze.
Oui, effectivement. Effectivement, il fait partie de ceux qui étaient là un peu après. Oui, c'était notre réalité. C'était. Puis il y avait énormément. Tu sais, je travaillais à ce moment-là aux chaînes Téléastral.
Ouais.
Et lorsque lorsque l'histoire a été publiée dans le Journal de Montréal, j'ai beaucoup d'anciens collègues qui me sont revenus en disant, écoute, on s'en rappelle encore. Puis on se rappelle à quel point on savait pas comment te prendre.
Ouais.
Comment dealer, puis je me suis excusé quasiment personnellement à chacun d'entre eux.
Mais t'as dû enfouir beaucoup de choses aussi. Je pense que c'est pendant des années.
Pendant des années, j'ai voulu être
comme
capable.
Comme si c'était pas arrivé, probablement.
Oui, mais aussi essayer de redonner à ceux qui m'avaient sauvé. À chaque année, j'allais au General porter des fleurs. Parce que pour moi, dans ma tête, puis c'était pas les mêmes équipes, là, c'est pas grave. J'achetais un bouquet, puis. J'allais au General et j'étais vivable 360 jours par année, mais les 5 jours, 2-3 jours avant, 2-3 jours après de la date, là, j'étais invivable. je devenais comme une espèce de bibitte d'angoisse, d'anxiété. Si j'avais des rencontres, je me décommandais de tout ce que j'avais. J'étais pas capable de fonctionner dans la réalité parce que le sentiment revenait. J'ai eu plusieurs thérapies, j'ai réussi à m'en sortir, mais et puis tu vois, encore cette année, j'ai fait une petite publication sur Facebook bien simple, c'est ce qui a mis la puce à l'oreille des journalistes, mais c'est plus aussi important que c'était et j'ai retrouvé une quiétude, outre dans certains endroits, puis avec des gens qui peuvent s'apparenter à ce que j'ai vécu.
Prends-tu le métro?
Oui, je prends le métro, je suis venu en métro ce matin.
T'es-tu repassé là?
Je suis repassé là une fois. Dernièrement, il y avait un 5 à 7, des amis qui organisaient un 5 à 7 pas loin. Et j'étais avec mon fils, parce que, bon, je suis séparé, puis j'ai quelques jours que je l'ai par mois. Et ce soir-là, ça s'est donné qu'il était avec moi. Et je suis allé lui montrer. Parce qu'on devait reprendre le métro à Georges Vanier, donc la station dont je m'en allais prendre. Puis j'ai dit, regarde, Youri, c'est là que papa a eu son accident. J'ai dit un accident, parce que je veux pas trop faire...
T'es pas le traumatisé non
plus. Puis le traumatiser. Je dis, regarde, Youri, c'est là que papa a eu son accident. Mais c'était la première fois que j'y allais...
En quasiment 17 ans,
wow. À pied. Parce que je l'ai faite à quelques reprises en auto. Puis j'avais besoin de le faire en auto, mais tu sais, en auto, t'es protégé. Puis j'en shakais à chaque fois, c'est pas moi qui conduisais. Mais à pied, c'était la première fois que je le refaisais.
Est-ce que tu dirais que t'es correct, là?
Faudrait pas que ça me réarrive une deuxième fois, là.
C'est sûr.
Je touche du bois que ça arrive pas une deuxième fois, parce que je pense pas que je réussirais à survivre une deuxième fois. Mais oui, je suis correct. Je suis correct et je suis capable d'affronter... Il y a deux ans, tu sais, je racontais à ton équipe de recherchistes, il y a deux ans, j'ai eu un espèce de gars intoxiqué qui était autour d'une gang d'amis. On était dans le village gay à Montréal. Et tout le monde s'est mis un peu à paniquer. Puis moi, j'étais bien zen, bien calme. Et les gens étaient, mais voyons donc, comment ça que toi, t'es zen, puis nous autres, on est en panique, ça devrait être l'inverse. Dans ma tête, je me dis, écoute, c'est arrivé une fois, ça peut pas me réarriver. Je peux pas être si malchanceux. Mm. J'ai eu des passes de malchance dans ma vie, mais ça peut pas m'arriver deux fois.
Wow. Mais c'est une histoire incroyable. Merci d'avoir été si généreux, Carl, de l'avoir raconté. Et puis, non, les probabilités sont de ton bord.
J'espère bien, oui.
Merci beaucoup. Carl Charest, témoignage très poignant. Vous êtes très nombreux à réagir. Ça touche beaucoup les gens, ce que tu viens de nous dire, parce que tout le monde a pensé à quelque chose qui est arrivé dans notre vie. Je tiens à remercier tout le monde de l'équipe, justement. Tu parlais de mon équipe de recherchistes. Merci beaucoup à Normand Gemme, à Isabelle Laure à la recherche. Merci à Jean-Christophe Ouellet à la technique. Je voulais juste vous dire un petit mot. On a parlé, vous savez, hier avec M. Capelli, puis on y avait donné rendez-vous avec Jean Bottari. On va faire un suivi la semaine prochaine. On parle ici de l'Éden, la résidence. On lâche pas ce dossier-là, comptez sur nous. On vous en reparle la semaine prochaine. Puis il y a une bonne pensée pour tous ceux qui vont être dans le froid en fin de semaine. Si vous avez des bas, des mitaines, allez les porter à l'émission Bon Accueil ou donnez-les carrément. Si vous voyez quelqu'un dans la rue, là, il faut absolument éviter que des gens aient trop froid. Merci à tout le monde et on se retrouve lundi. Bonne fin de semaine.